France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Il est 8h20, on demande toujours beaucoup à l'éducation nationale en France, raison pour laquelle peut-être les rentrées scolaires sont des moments si importants. Et celle que nous allons vivre dans quelques jours ne manquera pas de l'être, placée qu'elle est nécessairement sous le signe de la lutte contre le fanatisme, le terrorisme et la haine dans ce moment particulier où le vivre ensemble est menacé, où la défiance envers la figure du maître, de l'enseignant est aussi forte que celle envers les politiques et tout ce qui représente l'autorité. Alors que la ministre de l'Éducation nationale a présenté hier les mesures de protection des établissements scolaires contre la menace terroriste. Comment faire pour que l'école républicaine continue à jouer pleinement son rôle tout en restant au maximum ouverte au monde? Nos invités ce matin, Marie-Rose Moreau, psychiatre, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous publiez le 15 septembre « Osons être parents » chez Bayard. Merci d'être là. Et puis Philippe Mérieux est également avec nous. Est-ce que la liaison avec Philippe Mérieux s'est améliorée depuis tout à l'heure?
Oui, j'espère.
J'ai l'impression. Oui, voilà, très bien. On vous l'avait promis, hein. Philippe Mérieux en duplex avec nous depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Vous êtes professeur émérite de sciences de l'éducation à Lyon 2 et vous publiez aujourd'hui Éduquer après les attentats aux éditions ESF. Philippe Mérieux, quand vous entendez le ministre de l'Intérieur hier, de l'Intérieur, qui était en compagnie de Najat Vallaud-Belkacem pour cette conférence de presse, dire que le temps de l'insouciance est terminé, vous réagissez comment?
Ah, je me dis que c'est probablement vrai pour le politique, c'est probablement vrai pour les adultes, mais que pour nos enfants, il faut faire en sorte que leur enfance reste un peu quand même le temps de l'insouciance. L'enfant doit être protégé pour une part des rumeurs, du tumulte du monde, de la fureur du monde, parce que c'est la condition pour qu'il grandisse. Alors, protéger, ça ne veut pas dire totalement ignorant, ça veut dire que le filtre des adultes est important, que la figure tutélaire de l'adulte qui rassure est importante, et que si l'on fait des exercices dans les établissements scolaires, il faudra aussi avoir des moments de réflexion, des moments où l'on pourra penser la situation sereinement, et puis il faudra que tout cela n'efface pas les moments de créativité, les moments de joie collective, les moments où l'enfant vit son enfance pour pouvoir devenir un adulte pleinement responsable et épanoui.
Ça revient à se demander si on peut enseigner et comment enseigner dans cette période de peur, dans ce contexte d'angoisse. On dit qu'il faut apprendre à vivre avec la menace. Est-ce qu'on peut enseigner avec la menace ou contre la menace, Philippe Mérieux?
On peut évidemment enseigner aujourd'hui, et beaucoup d'enseignants en témoignent. On peut enseigner parce que on prend au sérieux ce qui est au cœur de l'enseignement, c'est-à-dire la distinction forte, qui n'est pas une distinction brutale, mais une distinction dans laquelle on accompagne l'enfant entre ce que c'est que savoir et ce que c'est que croire. Le fondement de l'école laïque, il est là, il est dans nous aidons chacun de nos élèves à distinguer ce que tu peux apprendre et qui te relie aux autres, parce que c'est le même savoir qui sera appris par tous, de ce que tu peux croire toi. Nous t'aidons aussi à métaboliser la violence que tu as en toi pour en faire quelque chose de constructif au service des autres, pour la transformer en désir de savoir, en désir de mieux faire, en désir de te dépasser et de te réaliser. Et ça, c'est un quotidien de l'école. Alors, c'était déjà un quotidien avant les périodes difficiles que nous avons vécues. Je crois que ça doit rester un quotidien aujourd'hui et ça doit le devenir encore plus quand ça ne l'était pas.
Mais c'est ça, le fondement de l'école laïque, comme vous dites, Philippe Mérieux, est remis en cause et attaqué dans une certaine mesure depuis un moment déjà.
Oui, il est attaqué, évidemment, mais c'est à l'école laïque précisément de chercher à montrer qu'elle est capable de relever ce défi, qu'elle est capable d'enseigner des savoirs sans abolir violemment les croire, ni nier les différences entre les individus, qu'elle est capable de construire un débat qui soit un débat serein, qui soit un débat qui ne s'effectue pas dans la violence, mais qui s'effectue parce que chacun justifie ses arguments, parce que chacun cherche la vérité. Et l'école laïque doit mettre cette exigence de précision, de rigueur, de justesse et de vérité au cœur de son enseignement, pas d'une manière brutale, il s'agit pas d'exclure celui qui se trompe, il s'agit de l'accompagner progressivement pour qu'il découvre que la vérité nous réunit, que la vérité nous donne du commun, nous fabrique du commun, sans nous interdire pour autant d'être individuellement quelqu'un qui va avoir ses spécificités, ses croyances, ses convictions.
Et pour ça, il faut se mettre autour de la table, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage « Éduquer après les attentats ». Alors, ça paraît un peu naïf, comme ça vous reprenez d'ailleurs l'image de la table ronde.
Oui, parce que c'est une vieille image. C'est l'image, évidemment, du roi Arthur, mais c'est l'image aussi d'un grand sociologue, ethnologue, Marcel Mauss, qui dit que la société se construit dès lors qu'on accepte d'entrer dans une pièce où l'on pose ses lances à l'entrée, et c'est-à-dire où l'on accepte de renoncer à la violence pour trouver entre nous la satisfaction de pouvoir débattre dans une certaine forme de raison. Alors de raison qui n'est pas la raison rationnelle toujours du mathématicien, qui est la raison de la justification. Tu as le droit de dire un certain nombre de choses, mais justifie-les, explique-les, et soumets ton explication et ta justification aux autres. Et c'est ainsi que je crois progressivement, c'est ce que disait Marcel Mauss dans ce fameux texte dans l'essai sur le don, les êtres construisent du commun et font société. Parce qu'au lieu de s'agresser, ils s'expliquent. Mmh. Et s'expliquer au lieu de s'agresser, ça prend très tôt. Ça prend dans la petite enfance, ça prend à l'école, ça prend en famille, ça prend dans les associations aussi. Je crois beaucoup à ce qui se passe dans les associations d'éducation populaire, dans les clubs de foot, dans les troupes de théâtre, dans les associations qui font de la musique. Tout cela, ce sont des lieux où l'on apprend non pas simplement à vivre ensemble, parce que vivre ensemble, on peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou charismatique, hein, ou on peut vivre ensemble indifférent, chacun devant notre écran, mais faire ensemble. Je crois que ce dont nos enfants ont besoin, c'est d'apprendre à faire ensemble et à découvrir en faisant qu'il y a des réalités auxquelles on doit faire face, qu'on doit prendre en compte, que
on va demander
le
beaucoup,
réel ne se plie pas à nos caprices.
On vous a compris, Philippe Mérieux, on va demander beaucoup aux professeurs, encore cette année, évidemment, Marie-Rose Moreau, on va demander aussi beaucoup aux parents, ils ont un rôle à jouer dans ce contexte, évidemment. Bah,
c'est-à-dire que oui, bien sûr, les parents, on a longtemps sous-estimé leur rôle à l'école. Hein. L'école, c'est un, comme le disait Philippe Mérieux, d'ailleurs, c'est un lieu collectif. On apprend d'ailleurs essentiellement et de plus en plus des méthodes plus que des contenus. Et on apprend à travailler ensemble et à faire des choses ensemble. Et cette école, elle est dans la société. Les enfants, ils ont des parents. Et c'est très important que les parents puissent être associés, non pas seulement pour cette question de sécurité, bien sûr c'est une question de la rentrée, et la sécurité c'est une sécurité dans tous les lieux, il faut que pour tous l'école soit un lieu de sécurité, y compris pour les parents qui laissent leurs enfants, mais c'est aussi pour bien apprendre. Parce que pour pouvoir bien apprendre à l'école, il y a une nécessité du bien-être des enfants et d'une possibilité pour les enfants de passer du monde de la maison au monde de l'école avec sécurité et en s'appuyant aussi sur le monde de la maison. Donc la place des parents à l'école aujourd'hui, peut-être qu'on la redécouvre un peu avec cette...
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, Marie-Rose Moreau, elle n'a pas, pour l'instant, elle n'existe pas cette place, ou très peu, c'est pas une tradition de l'éducation nationale que de laisser entrer les parents à l'école.
Et non, c'est pas une tradition de l'éducation nationale
française.
En tout cas
en France, voilà.
Voilà. Et sans doute, ce qui se passe aujourd'hui dans la société nous oblige d'une certaine façon à donner plus de place aux parents, mais aussi à donner plus de place à tout ce qui concerne la société, la diversité, la fragilité aussi, parce que dans les classes, il y a des enfants qui ont des besoins différents, il y a des enfants qui ont des familles différentes, il y a des enfants qui ont besoin de plus que de temps que les autres pour apprendre, etc. Et cette fragilité-là de certains enfants, elle doit être prise en compte à l'intérieur de l'école, et pour ça, on a besoin de tout ce qui existe à l'extérieur de l'école. écoles. Et la famille est très importante.
Paradoxalement, on va protéger les écoles en cette rentrée, et ça va durer probablement quelques années comme ça. On va probablement mettre en place des patrouilles devant les collèges, les lycées. Et en même temps, il faut quand même rester ouvert au monde.
Ah oui.
Ça, c'est un enjeu fondamental.
Ah oui. Moi, je pense que la vraie sécurité de l'école, c'est pas seulement une sécurité militaire, on va dire. Sans doute qu'elle est parfois nécessaire à certains moments, mais la vraie sécurité, c'est une sécurité où les enfants croient et sont dans les bonnes conditions pour apprendre. Et cette, Philippe Mérieux le parlait tout à l'heure, c'est Bernard Stiegler qui parlait de cette notion de croire en la transmission. Et bien, croire, être bien, savoir qu'on est ensemble et qu'on a une légitimité pour être là, pour faire des choses ensemble et pour apprendre, ça contribue aussi à la sécurité de l'école et ça crée le climat nécessaire pour que chacun puisse apprendre. Et d'où l'importance aussi de ne pas oublier que les élèves, ils ont des parents, mais les élèves, ils ont aussi une psychologie. Et ils peuvent avoir des besoins particuliers. Ils se développent, ils se construisent. Et puis que la psychologie, elle a fait des progrès extraordinaires. Et que cette psychologie, elle peut aussi aider à l'intérieur de l'école.
Bon, mais elle est en train d'entrer à l'école, cette psychologie. Ça, c'est une réforme qui se met en place, là, oui. Marie-Rose Moreau, que vous voyez plutôt d'un bon oeil.
Ah bah oui, enfin, une école qui n'oublie pas que les enfants ont des besoins psychologiques.
Jusqu'à maintenant, quand on parlait de psychologie à l'école, c'était souvent en rapport avec des questions, des questions d'orientation. On s'intéresse à l'enfant quand il ne va pas bien et on va essayer de savoir où on peut le caser, finalement, c'est ça. Là, on change complètement de paradigme.
On est en train de changer de paradigme, oui, avec cette réforme sur les psychologues de l'éducation. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'effectivement, à l'intérieur de l'école, le bien-être psychologique des enfants est une valeur partagée, est une valeur qui appartient aussi à l'école, à tous les adultes qui sont à l'école, les enseignants, ceux qui structurent l'école, et que au fond, à l'intérieur même de l'école, on va la prendre en compte, et il y a des professionnels qui peuvent faire ça, et qui peuvent utiliser les outils de la psychologie contemporaine pour aider les enfants à être bien, à être légitime, à apprendre. Et effectivement, c'est une petite révolution.
Philippe Mérieux, on entend cette entrée des psychologues à l'école par la grande porte, elle arrive. Est-ce que l'école doit, ça va pas être facile, est-ce que l'école doit se forcer à être un lieu transdisciplinaire, un lieu où de multiples intervenants arrivent? Alors on parlait des parents tout à l'heure, on parlait aussi, et c'est ce que disait Marie-Rose Moreau, de ne plus forcément s'intéresser uniquement au savoir académique. Il y a une révolution qui doit être menée à l'école.
Oui, sans doute, mais elle est déjà assez largement engagée. L'école est déjà un lieu où il y a une multitude d'intervenants qui collaborent et qui travaillent pour que l'enfant apprenne. Moi, je crois à cette idée de bien-être, mais je crois que le bien-être à l'école, ça n'est pas simplement le fait d'être bien dans sa peau, comme on dit. Le bien-être, c'est de découvrir à l'école le plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre et la joie de comprendre. Trop souvent, pour les enfants, apprendre, c'est une épreuve. Apprendre, c'est un parcours du combattant. D'ailleurs, on dit on se prend la tête. Et on préfère prendre son pied que se prendre la tête quand on est un gamin, et c'est bien compréhensible. Mais l'école est là pour faire découvrir à chacun qu'apprendre, c'est un moment de joie et de bonheur. Que comprendre, se dire, ah, ça y est, j'ai compris, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça marche, je vais pouvoir enfin écrire et communiquer avec quelqu'un qui est plus loin que celui qui est en face de moi, je vais pouvoir lire et comprendre des choses qui m'étaient jusque-là trop éloignées ou trop inconnues. Cette joie-là, elle doit être profondément présente au quotidien dans l'école, et ça nécessite d'inverser un certain nombre de logiques. Pour trop d'enfants encore, entrer dans l'écrit, par exemple, c'est se soumettre. Alors certes, il faut se soumettre à des règles, règles d'orthographe, règles d'écriture, de grammaire, mais se soumettre pour mieux s'exprimer, se soumettre pour précisément exprimer sa liberté. Et c'est ce renversement-là qui est au cœur d'une véritable école de la personne, une véritable école qui prend en compte chaque individu, à la fois dans son développement personnel, mais aussi dans ce en quoi la transmission dont on parlait, eh bien, contribue à lui permettre de s'inscrire dans un vrai collectif.
Le rapport enseignant-enseigné doit changer. Il a déjà changé, Philippe Mérieux. Il faut l'adapter à la nouvelle donne.
Oui, le rapport enseignant-enseigné, il change en permanence. Et en même temps, il reste le même. Il y a un dénivelé radical entre celui qui sait et celui qui apprend. Mais ce dénivelé radical, eh bien, il faut le négocier. C'est pas parce que je sais que j'opprime. C'est pas parce que je sais que je demande à l'autre de s'assujettir. C'est pas parce que je sais que je formate. C'est parce que je sais que j'ai le devoir de transmettre à l'autre ce plaisir et cette joie d'apprendre et de comprendre. Alors aujourd'hui, bien sûr, les savoirs sont multiples. Il y a quelques années encore, on apprenait l'essentiel à l'école. Aujourd'hui, l'enfant a un nombre considérable d'informations à travers les réseaux sociaux, on en parlait, à travers la publicité, à travers les médias. Et l'école ne perd pas pour autant son rôle essentiel, qui est d'interroger tous ces avoirs-là à l'aune de la question de la vérité, de la précision, à l'aune de la question de ce en quoi ils nous aident à grandir et non pas ce en quoi ils sont susceptibles d'être utilisés de manière mortifère pour nous détruire réciproquement. Je crois que l'école a un vrai rôle. Et elle a un rôle d'autant plus important que, précisément, elle accueille tous les enfants. Elle est ce lieu où tous les enfants peuvent et doivent passer et où, précisément, ils peuvent tous entendre ce plaisir de comprendre et accéder à cette satisfaction d'un collectif où chacun a sa place, où nul n'opprime les autres et où, ensemble, on se dépasse collectivement.
Sur les enseignements transdisciplinaires, Philippe Mérieux, vous voyez peut-être où je veux vous mener, la réforme du collège, qui est aussi l'actualité, il ne faut pas l'oublier, l'actualité de cette rentrée scolaire, ça peut permettre, dans ce contexte aussi, d'avancer ?
Oui, tout dépend comment on entend les enseignements interdisciplinaires. Si l'interdisciplinarité, c'est l'absence de discipline, c'est du bricolage amusant, bien évidemment, ce sera du temps perdu. Si, en revanche, l'interdisciplinarité, c'est une occasion pour montrer aux élèves à quoi servent les disciplines, on va mobiliser les mathématiques, on va mobiliser la biologie, on va mobiliser ce qu'on a appris en français pour faire un journal, pour entrer dans la compréhension d'une problématique scientifique, pour construire une maquette, pour faire des choses qui vont permettre de se saisir des savoirs disciplinaires, non pas d'une manière trop protocolaire, exclusivement académique, et pour se faire évaluer immédiatement si on sait ou si on ne sait pas, mais pour découvrir en quoi ces savoirs ne sont pas simplement des obstacles sur un parcours du combattant de la scolarité, mais sont des outils grâce auxquels les humains peuvent se retrouver et construire un monde meilleur. Et je crois que si l'interdisciplinarité permet cela, elle complétera opportunément les enseignements disciplinaires.
Marie Rosemoreau, les inégalités s'accroissent à l'école, il ne faut pas non plus l'oublier.
Et oui, les inégalités s'accroissent et l'école ne répare pas ces inégalités. Une enquête qui est sortie, qui s'appelle Trajectoire et Origine, qui est sortie récemment, qui a analysé un certain nombre de trajectoires de minorités, disons, et qui montre que dans certains cas, par exemple pour les filles, l'école répare certaines de ces inégalités, et pour les garçons, non seulement elle ne les répare pas, mais elle les accentue. D'où l'importance d'une école où on va effectivement donner le plaisir d'apprendre et d'apprendre les fondamentaux et surtout de donner des méthodes pour aller acquérir et se sentir légitime. Cette question de la légitimité des apprentissages me semble très importante parce que le plaisir, c'est vraiment fondamental, et quand on n'y arrive pas, et quand on n'arrive pas à apprendre, quand on n'arrive pas à se sentir capable d'apprendre. Et donc c'est à ce moment-là que se joue toute cette question de d'où je viens, quelle est ma langue, mes parents, comment ils voient l'école. Donc tous ces éléments autour de l'école qui, d'une certaine façon, viennent faire obstacle à ces beaux apprentissages de l'école qui sont fondamentaux pour construire le bien commun. Donc, reconnaître finalement ces difficultés, ces discriminations, apprendre à travailler ensemble, modifier les représentations des enfants pour que ça ne se perpétue pas d'une génération à l'autre. C'est une sorte d'éducation à la diversité qui doit se faire à l'intérieur de l'école, et c'est l'enjeu de l'école d'aujourd'hui.
Merci à tous les deux. Marie-Rose Moreau, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous publiez le 15 septembre « Osons être parents ». Ce sera chez Bayard. Et merci également à Philippe Mérieux, le titre de votre ouvrage publié aujourd'hui chez ESF Éditions « Éduquer après les attentats ». Merci au bureau de Radio France à Lyon qui a assuré la liaison technique. Dans un instant, le journal de Catherine Dutu.